France Inter, 8h23.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale un professeur de sciences politiques à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Il est également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, dont les travaux ont été lancés vendredi par le Premier ministre et se sont poursuivis tout le week-end dernier. Question-réaction 01 45 24 7000 via les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Loïc Blondiot, bonjour.
Bonjour.
Le dispositif, je le reprécise, 150 citoyens tirés au sort, invités à travailler pendant 6 week-ends sur 6 thèmes, se déplacer, consommer, se nourrir, se loger, produire et travailler. Le but, c'est de proposer au gouvernement des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Une fois ces mesures formulées fin janvier, le gouvernement tranchera. Soit elles seront proposées au vote des députés sous forme de loi, soit aux Français sous forme de référendum. Voilà, j'ai résumé à très gros un processus inédit en France. Dites-nous, Loïc Blondiot, c'est une date historique, on lira dans les livres d'histoire que la République aura fait en 2019 sa première expérience de démocratie participative.
Oui, ah, je le pense. Donc, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est une première mondiale à cette échelle. On a eu des expériences équivalentes en Irlande, qui ont donné lieu à des référendums sur le mariage pour tous et sur l'avortement, qui ont très bien fonctionné. Mais je pense que nos démocraties sont face à une équation qui est extrêmement compliquée. Elles sont face à une urgence climatique, à des risques de dérèglement environnementaux qui risquent de mettre en danger le fait même qu'elles restent des démocraties. Et puis, elles sont par ailleurs très peu armées pour résoudre cette question. Elles ne voient jamais plus loin que l'élection suivante. Elles sont myopes, ces démocraties, et nous le savons. Cette impuissance organisée commence à devenir réellement problématique. Et le pari, parce qu'on ne veut pas de la dictature éclairée, et je pense que ça n'existe pas, la dictature éclairée en matière de lutte contre le changement climatique ou qui imposerait des contraintes qui ne seraient pas acceptées par les citoyens, l'important aujourd'hui, c'est de régler cette question, ou en tout cas de l'affronter d'une manière démocratique. Et associer les citoyens au processus de décision, c'est le seul moyen de le faire.
On va revenir sur ce que vous appelez la dictature éclairée et l'idée de la contrainte, notamment sur l'écologie. Mais d'abord, pour continuer à poursuivre, on entend votre enthousiasme ce matin, vous semblez enjoué, vous semblez convaincu. Vous étiez critique sur le grand débat post-gilet jaune. Or là, cette convention n'existe que par la volonté du président de la République. Alors qu'est-ce que vous répondez aux sceptiques, Loïc Blondiot, ceux qui sont là pour dire, au fond, vous êtes là pour amuser la galerie et vos conclusions ne seront jamais reprises et utilisées?
Impossible de nier l'origine de cette convention. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu effectivement cette décision d'Emmanuel Macron, mais qui lui a été fortement suggérée par des représentants des Gilets jaunes ou de ce qu'on a appelé les Gilets citoyens, comme Cyril Dion. Donc, effectivement, elle vient de du haut. Mais son organisation est totalement indépendante et j'irais même jusqu'à dire que c'est l'anti-grand débat. C'est l'anti-grand débat pour plusieurs raisons. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui l'organise en direct, mais un comité de pilotage qui travaille sous l'égide du CESE, qui est dirigé par des personnalités indépendantes.
Le Conseil économique et social.
Le Conseil économique et social environnemental, qui est dirigé et composé par des personnalités indépendantes qui sont souveraines. C'est ce que dit le cahier des charges. L'organisation, elle, n'est pas entre la main de l'exécutif et il y a peu de chances que l'on voit là, ici, les mêmes travers communicationnels du grand débat. Et ça n'est pas le grand débat pour une seconde raison. C'est que là, les citoyens vont être en mesure de délibérer. Ça n'est pas de la communication. Ils vont travailler ensemble pendant 6 week-ends, ils vont écouter des experts, ils vont travailler en petits groupes, ils vont étudier des expériences de terrain sur les différents thèmes dont vous avez parlé. Et c'est ce processus de délibération et d'intelligence collective qui va aboutir au projet de loi, à cette initiative citoyenne. Hein, souvenez-vous, le RIC, c'était une demande de ce que les citoyens puissent être à l'initiative d'une loi. Là, on a affaire à une initiative citoyenne. Non, le procédé est robuste. Nous avons fait en sorte qu'il soit irréprochable. Il y aura un garant, il y aura trois garants, dont Cyril Dion. Nous sommes là. Moi, je suis universitaire. Je ne dépends absolument personne. Je travaille là-dessus depuis 15 ans.
Donc, vous engagez votre responsabilité, vous, Cyril Dion. Non, mais c'est vrai, c'est
absolument,
vrai. À l'égard des citoyens, à l'égard...
Je m'engage jusqu'au moment de la réponse du gouvernement. Si le gouvernement s'assoit, comme il l'a fait quelque part avec le grand débat, sur cette initiative citoyenne, c'est-à-dire ne tient pas ses promesses, à ce moment-là j'aurais perdu, mais c'est la démocratie qui aura perdu, et je pense qu'on est condamné à réussir sur ce coup-là.
Loïc Blondiaux, il y a un front critique assez étonnant qui va de Greenpeace à la droite. Commençons par Greenpeace qui dit en substance que toutes les solutions aux problèmes posés par... que toutes les solutions aux problèmes posés aux 150 citoyens sont connues. Et que la convention est une manœuvre dilatoire de l'exécutif qui lui permet de ne pas prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous répondez à une critique de ce genre qui, sur le papier, pourrait sembler contre-intuitive venant d'une grande ONG ?
Oui, alors, elle serait juste, cette critique, si les citoyens étaient mis face à une feuille blanche. Or, toutes les solutions qui existent, on va les en informer, et ils vont, quelque part, devoir choisir entre ces solutions. Donc on ne part pas de rien, ça n'est pas un exercice de pure imagination citoyenne. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je pense que si on est face à l'urgence, il nous reste là, la convention va durer 4 mois. On peut peut-être encore perdre 4 mois. Il me semble que ce serait même très utile pour produire des décisions légitimes. Parce que l'enjeu, c'est d'emmener toute la France derrière nous, c'est-à-dire de faire en sorte que ces mesures que beaucoup de gens appellent et que Greenpeace appelle doivent faire l'objet d'un consensus dans la population. Or, le tirage au sort que nous avons effectué a produit ce consensus.
Pourquoi expliquez-nous pourquoi ce tirage au sort, notamment sur le grand débat, vous aviez critiqué le manque de représentativité en disant il n'y avait pas assez de jeunes, il n'y avait pas assez de gens issus des quartiers. Là, en quoi ce tirage au sort garantit la légitimité de ce corpus des 150 ?
Sur ces 150 citoyens, il y a par exemple, et ça c'est un point capital, autant de non-diplômés qu'il y a dans la population française. Dans les assemblées du grand débat, il y avait à peu près les 2/3 de bac plus 2. Là, on a voulu qu'il y ait vraiment une miniature de la société française. Il y a des jeunes de moins de 18 ans. Ça a été compliqué d'un point de vue de responsabilité, mais compte tenu de leur engagement pour le climat, ils sont là. On a toutes les catégories socioprofessionnelles dans les mêmes proportions que la population française. On a des ultramarins qui vont venir présenter le cas spécifique
de l'Outre-mer. C'est une France en petit.
C'est exactement ça. Je pense que nous y sommes parvenus et ceux qui ont assisté au premier débat ce week-end se sont rendus compte de l'incroyable diversité de cet échantillon. Et il y aurait pu y avoir Daniel Cohn-Bendit, ça aurait pu être une possibilité.
Il a été tiré au sort,
il ne vient
la
pas.
Blague.
Mais tout le monde a cru que c'était la preuve d'une instrumentalisation. Mais je dis à tout cela, alors c'est ouvert, c'est une convention à ciel ouvert. Venez voir, rendez-vous compte et vous verrez qu'on a vraiment un échantillon de la France.
Alors, il y a un deuxième espace critique, Loïc Blondiaux. Je cite les propos de Philippe Gosselin, député Les Républicains. Cela pose vraiment la question de la pertinence du tirage au sort qui vient heurter frontalement la légitimité de la démocratie représentative. Les deux formes, selon lui, s'affrontent. Vous allez, j'imagine, nous dire qu'elles se combinent.
Elles se combinent, mais quelque part, elles s'affrontent
aussi. La question
aussi
est massive, là.
Non, mais quelque part, elles s'affrontent aussi, il faut le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que les institutions de la démocratie représentative qui reposent sur l'élection produisent de moins en moins de légitimité. La légitimité produite par l'élection ne suffit plus aujourd'hui à ce que cette démocratie représentative produise des décisions légitimes. C'est un fait historique. Ça touche toutes nos sociétés. Le tirage au sort était perçu à Athènes et même jusque très tard, jusqu'au XVIIIe siècle, comme le seul mode démocratique de désignation des gouvernants. C'est ce que disait Montesquieu encore au milieu du XVIIIe siècle. Le tirage au sort qui suscite beaucoup de scepticisme en France, et vraiment, il faut y répondre à ce scepticisme. En fait, il produit plusieurs choses. Il produit une indépendance. Les gens qui viennent là n'ont aucun intérêt à se faire réélire. Ils vont pouvoir se positionner à l'échelle qu'il faut, c'est-à-dire du côté de l'intérêt général, du côté de l'avenir. Donc le tirage au sort produit produit ça. Le tirage au sort produit aussi une très grande diversité de points de vue, d'intérêts. Aujourd'hui, la démocratie représentative, elle est captée par les lobbies, par les groupes d'intérêts qui ont une influence prépondérante sur le processus de décision.
Votre critique est virulente, pardon, je vous arrête. Vous êtes en train de démonter littéralement la démocratie participative, la démocratie représentative sur laquelle on vit depuis des années.
C'est un fait, mais je ne veux pas du tout m'en débarrasser.
Et alors, je vais les défendre, voilà. En quoi ce qui va sortir de votre convention des 150 est plus légitime, en quoi une décision venant des 150 est plus légitime que une décision venant du Parlement où ils ont été élus par beaucoup plus de gens que 150.
C'est une autre légitimité. C'est la légitimité qui a été produite par une assemblée de citoyens tirés au sort qui ne sont pas dans une position de conflit d'intérêts. Et ce que disait Nicolas de Morand est juste. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, et je n'y tiens pas. Pour moi, la démocratie représentative reste encore le socle et doit rester encore le socle de nos institutions politiques. Mais là, ce qui est formidable, c'est que le projet de loi qui sera produit par ces citoyens, il va être posé sur le bureau des parlementaires. On n'abolit pas la démocratie représentative. C'est à
ils
eux.
Ils pourront l'amender.
Hein? Évidemment, ils pourront l'amender. Ça ne se traduira pas directement dans la loi. C'est dans le cas du référendum. Et je pense qu'il serait très important que une partie de ce projet de loi ou tout ce projet de loi soit soumis au référendum. Parce qu'il faut que tous les citoyens s'embarquent dans ce dispositif.
Est-ce que vous pouvez nous parler de fond maintenant? De quoi vous avez discuté?
J'ai pas discuté. Moi, je suis resté complètement muet.
Qu'est-ce que vous avez entendu alors? Oui. Quelles sont les idées neuves qui ont été brassés, par exemple?
Alors, il est un peu tôt pour le dire.
Bah,
c'est un week-end.
Peu...
Non. Faut pas raisonner comme ça. Pour l'instant, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à écouter. On peut pas leur reprocher, d'un certain point de vue, de ne pas être compétents et leur demander tout de suite d'avoir des idées. Ce ne sont pas des experts. Ils vont devenir, non pas des spécialistes, mais ils vont s'approprier le sujet. Là, pour l'instant, ils ont fait des déclarations que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux et qui sont destinées au reste de la société. Ces déclarations, c'est il y a une urgence écologique. Il y a des solutions qui existent. On va essayer de voir celles qui font consensus parmi nous. Il ne s'agit pas de chercher des idées neuves. Il s'agit aussi de voir comment ces perspectives d'action de lutte contre le changement climatique s'accordent ou non avec leur expérience, avec leur expertise de terrain. Ils vont quand même intégrer dans ce processus leur propre expertise de terrain, leur expertise profane d'un certain point de vue. Et c'est ça qui risque de faire la valeur politique très forte de ce qu'ils produiront.
Deux questions rapides avant de donner la parole aux auditeurs. Vous l'avez dit, Loïc Blondiau, la convention des 150 est inédite, mais ça n'est pas que ça qui bouge dans le paysage. Quand on regarde le mouvement Extinction Rebellion qui a mené hier soir des actions à Londres, Sydney, New York, Berlin, Madrid, Paris, où la place du Châtelet a été et est encore occupée. C'est un mouvement vieux d'un an dont le mode d'action est la désobéissance civile et la non-violence. Est-ce que la lutte pour la planète peut passer par ces moyens-là, la désobéissance civile notamment? Est-ce que la fin justifie les moyens?
Alors, là, en l'occurrence, Extinction Rebellion n'a jamais prôné le recours à l'action violente. C'est de la désobéissance non violente et
voilà,
il me paraît compliqué de vouloir les réprimer sévèrement, comme ça a été dit sur votre antenne
par Ségolène Royal.
On a vraiment un mouvement d'action directe, mais qui n'est pas non violent. Mais c'est un mouvement, Extinction Rebellion, qui demande la création d'une assemblée citoyenne de ce type dans tous les pays concernés. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre cette forme de démocratie participative institutionnalisée qui essaye finalement de compléter les procédures de la démocratie représentative classique et l'action violente. L'action non violente. Dans la rue. Je pense que les deux... Il y a quelque chose qui s'est joué depuis quelques mois dans nos sociétés. Et les mouvements contre le climat l'ont montré. C'est une prise de conscience par les citoyens. Contre le climat ou pour le climat, voilà. L'ont démontré. Il y a un vaste changement d'opinion. Et le peuple s'exprime de différentes manières. Il s'exprime dans la rue, mais je pense essentiel qu'il puisse s'exprimer aussi dans des espaces du type de la Convention citoyenne pour le climat.
Des membres d'Extinction Rebellion disent ne plus croire aux capacités d'action des grandes ONG comme Greenpeace. Ils ne croient plus aux manifestations et aux pétitions. Ils disent qu'il faut agir et bloquer, que l'urgence est trop grande. manifester, pétitionner, au fond, que ce seraient des vieilles formes démocratiques de mobilisation qui ne servent plus à rien. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, quelque part, les organisations environnementales sont victimes de cette défiance à l'égard de toutes les formes de médiation, de toutes les formes de représentation qui existent dans la société. Et force est de constater que les politiques environnementales bougent peu et que les formes classiques de la mobilisation ont, au final, relativement peu produit. Et donc, si l'on veut qu'un jour, nos démocraties se transforment. Un de mes collègues est sorti, qui est plutôt critique à l'égard de la démocratie participative, est sorti du week-end en disant « un nouveau monde commence peut-être ». Un nouveau monde commence peut-être. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer de nouvelles formes de démocratie. C'est absolument impératif. La démocratie représentative, elle a bien fonctionné pendant plus de 2 siècles. Elle a réussi finalement à répondre aux défis que devaient affronter nos sociétés. Là, elle n'est plus capable de le faire. C'est une évidence. Il faut maintenant penser à lui adjoindre de la démocratie participative.
La parole à Georges, auditeur de France Inter au Standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie.
Alors, en fait, je voulais faire une petite prévision, c'est-à-dire que pour moi, on connaît déjà le résultat de cette consultation, c'est-à-dire que les gens, on va leur demander, est-ce que vous êtes capable de réduire votre confort ? Parce que c'est ça le problème. Mmh. En fait, on peut pas faire une transition qui conserve notre mode de vie. Donc les gens vont refuser et le gouvernement va nous dire, façon Ponce Pilate, nous vous avons consulté et donc nous ne ferons rien. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça avec la réforme des retraites ? Faudrait que les gens réfléchissent et se rendent compte qu'en fait, c'est un jeu de dupes.
Mmh. Merci Georges pour cette question. Loïc Blondiot vous répond.
Alors, il y a 2 questions. La première, c'est que, en fait, dans le cahier des charges qui a été donné à cette convention, il y a l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et cette dimension de justice sociale, c'est-à-dire d'accompagnement, de traitement égalitaire des différentes catégories, il est clair que la convention, là, me semble-t-il, sur la table. Ça, c'est un point qui me paraît important. Et qui de mieux pour défendre ce point de vue-là, que nous ne sommes pas tous à égalité face au monde à venir et face aux politiques qui devront être menées, qui de mieux que les citoyens eux-mêmes, que ceux qui sont confrontés à ces questions ? Moi, c'est pour ça que je pense que le dispositif est, de ce point de vue-là, beaucoup plus robuste qu'un autre. Et puis, deuxième remarque, par rapport aux retraites, oui, moi j'aimerais beaucoup qu'un dispositif de ce type, à condition qu'il respecte les règles de ce que nous appelons la démocratie délibérative, c'est-à-dire les garde-fous, l'exigence en termes de qualité procédurale, oui, un dispositif comme celui-là pourrait être utilisé sur les retraites. Ce qui est en train de se faire sur les retraites, ça n'a rien à voir avec la Convention citoyenne pour
le climat.
C'est-à-dire
le grand débat lancé par Emmanuel Macron.
C'est une suite d'un grand débat. Or, le grand débat, c'est d'abord de la communication. L'engagement du Premier ministre n'est pas, comme il l'a fait ici, ou du Président de la République, dans cette consultation sur les retraites, n'est pas de transmettre sans filtre à l'Assemblée ou au peuple le projet de loi qui sera élaboré par les citoyens, et je le répète, avec des juristes aussi. On va les accompagner, ils écouteront des experts, mais il y aura un comité de juristes, un comité légistique qui va les aider à traduire leurs revendications en langage juridique.
Mais pour revenir à la question de l'auditeur, est-ce que le risque aussi pour vous, c'est de ne pas aboutir à un consensus mou au fond ? Est-ce qu'il ne faut pas admettre à un moment que l'écologie, ça n'est pas le consensus, mais le dissensus, que oui, ça peut mettre des gens en colère, et oui, il faudra sans doute la contrainte ?
Oui, mais il faudra que cette contrainte, elle soit légitime. La contrainte, effectivement, elle devra être là. Alors, je ne sais absolument pas ce que va produire cette Assemblée. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Peut-être qu'il y aura à la fin un consensus mou. Peut-être qu'ils ne parviendront pas finalement à adopter, à s'entendre sur des mesures extrêmement contraignantes. C'est possible. C'est une hypothèse. Mais c'est ça le caractère vraiment démocratique de la procédure. Je ne sais pas.
Karine est en ligne. Bonjour et bienvenue, Karine.
Allô, bonjour.
Oui.
Je vous remercie de prendre ma question.
Je vous en prie.
Bon, alors voilà, j'ai une question bien précise. Alors, de quelle façon les investigations d'une assemblée de 150 citoyens, elles pourraient avoir une influence sur les multinationales les industries de la guerre et les lobbies, alors que l'État, lui-même, n'a aucun pouvoir et il est soumis aux lobbies.
Merci Karine pour cette question. Loïc Blondiaux.
Les citoyens l'ont dit tout de suite, et c'est une question qui a été adressée au Premier ministre lorsqu'il est venu inaugurer les travaux. Finalement, est-ce que l'on a droit de toucher aux intérêts des multinationales ou des grandes entreprises? En fait, là aussi, il y a eu une évolution des consciences. Les citoyens se sont aperçus de la place complètement disproportionnée et de l'emprise des intérêts économiques, des intérêts des grandes entreprises sur le pouvoir politique, hein, qui est un fait, qui est un constat que nous observons tous. Et effectivement, ils ont raison de poser la question à cette hauteur-là et éventuellement de mettre les gouvernements face à leurs responsabilités. Oseront-ils finalement s'attaquer aux intérêts, à ces intérêts-là qui aujourd'hui sont les principaux obstacles?
Une question sur les 150 qui nous vient via l'application France Inter, c'est Lucas qui vous la pose, Loïc Blondiaux. Les 150 ont-ils fait une déclaration de conflit d'intérêts? Comment être certain qu'ils sont vraiment indépendants? C'est lui qui l'écrit comme ça.
Oui, il est possible que dans les 150, des gens... Alors, ils n'ont pas écrit de déclaration de conflit d'intérêts. Par contre, nous, membres du comité de gouvernance, l'avons écrit. L'un des membres de ce comité a été... parce qu'elle appartenait au MEDEF, mais je pense qu'il était important qu'une représentante du MEDEF soit dans le comité de pilotage. Nous avons fait une déclaration d'indépendance. Les citoyens, non. Ce que nous allons faire, c'est tout faire pour les protéger de cela. On a mis en place un dispositif d'alerte. On va essayer de protéger leur anonymat. Et s'il y a, par exemple, quelqu'un qui travaille chez Total et qui aurait été tiré au sort, il ne pèsera qu'un 150e. Je crois qu'il faut croire en l'intelligence collective. Ça n'est pas un vain mot, l'intelligence collective. À 150, on est plus intelligent que tout seul.
Sur l'intelligence collective, un petit mot, on change un petit peu de sujet sur la démocratie actuelle et la remise en cause de la parole publique et de la parole des politiques. On l'a vu avec Rouen, avec l'incendie de l'usine Lubrizol, plus les dirigeants parlent, le Premier ministre, quatre ministres qui parlent, qui disent c'est pas nocif, il n'y a pas de pollution, moins on les croit. Comment vous expliquez cela? Qu'est-ce que ça dit du moment qu'on vit?
Ça dit surtout qu'on vit un tournant, cette dévaluation de la parole politique qui vient après un processus finalement au cours duquel ces représentants ont donné le sentiment d'avoir trahi leurs promesses, d'avoir trahi leurs paroles, met en cause beaucoup plus que jamais. Ça fait des années qu'on parle de crise de la représentation. Là, on est à un tournant historique, hein, un tournant, je pense même civilisationnel. C'est-à-dire que le mécanisme de la représentation qui est fondamental dans notre système politique, mais qui fonde aussi nos sociétés, ne fonctionne plus. Il va falloir inventer soit d'autres formes de représentation, alors qui peut-être iront chercher plus du côté du mandat impératif. Pourquoi pas? Je sais que le mandat impératif n'a pas bonne presse en France depuis la Révolution française, mais il faut s'assurer de possibilités de contrôle beaucoup plus fort des citoyens, des représentés sur les représentants, pour maintenir cette confiance. Parce que cette confiance, c'est un fait. Que l'on veuille ou non, elle n'existe plus. Et donc, du coup... Là, on a des citoyens à qui on va donner une expertise contradictoire. Ils ne seront pas nourris par un seul point de vue. Ils n'auront pas été chercher cette information sur les réseaux sociaux. Et on va essayer de restaurer à la fois leur propre confiance, parce que ils partent là. Le vendredi, ils étaient extrêmement défiants sur le processus lui-même. Hein, restaurer d'abord leur propre confiance, ce sera déjà beaucoup, si eux ressortent plus confiants dans la capacité de nos démocraties à les écouter. Et effectivement, il faut, et ça, vraiment, je compte sur vous, les médias, il faut que les autres citoyens prennent conscience de ce qui se joue d'historique et d'important dans ce moment-là.
Loïc Blondiaux, merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et donc membre de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Bon débat à tous jusqu'à mi-janvier. Il est 8h47.